France Inter.
Oui, bonjour, Roland de Kibou. Eh bien, merci pour cette émission sur la restauration collective. Je voulais apporter mon témoignage pour dire que tout était possible puisque nous avons maintenant, il y a 3 ans, localement relancé une production maraîchage en collaboration avec l'hôpital local qui est sa cuisine centrale et avec la participation de la banque alimentaire pour gérer tous les flux d'invendus. Nous sommes passés en bio, nous fournissons l'hôpital qui nourrit du nourrisson à la gériatrie et tout le monde y retrouve son compte, à la fois les cuisiniers qui retrouvent du sens à ce qu'ils font parce qu'ils ont quitté leurs ciseaux, comme l'ont dit vos invités, et puis sur notre maraîchage, les gens sont heureux de voir où vont leurs produits. Tout est possible, faut pas baisser les bras. Au revoir.
Bonjour et merci beaucoup pour cette émission du jour. Élodie Dosser, je suis végane depuis de nombreuses années et je ne peux bien sûr qu'encourager ces repas végétariens qui gagnent enfin nos cantines et autres restaurants collectifs. Merci et bravo. Effectivement, éduquer nos enfants au goût, au bio, au local et aux alternatives végétales est essentiel pour en faire des consommateurs de demain plus responsables. Alors je me demandais pourquoi ne pas en profiter également pour leur glisser un petit mot sur le respect du monde animal et que manger des protéines végétales, c'est effectivement positif pour notre environnement, mais c'est également sauver des vies par milliers. Dommage que la cause animale ait été la grande absente de votre argumentaire du jour. Petit clin d'œil pour faire écho à votre émission du 12 mars, « Comment la viande dévore la planète ». Bonne journée.
Alexandre, j'appelle de Bazé-sur-Cher, dans l'Indre-et-Loire. Je viens d'entendre votre auditeur qui a appelé le vélo électrique le SUV des vélos. Je comprends la logique qui est de dire que le vélo est effectivement plus lourd et qu'il consomme des métaux lourds. En ce qui me concerne, j'habite à 13 km de mon lieu de travail. Je suis très sédentaire et je serais incapable, je l'avoue, de prendre le vélo, un vélo normal, pour aller à mon travail et d'arriver dans les temps et en ressemblant à quelque chose. Quand je prends mon vélo électrique, ça me fait une activité physique et avec un petit peu de chance, ça va suffisamment me remettre en forme pour que je puisse repasser à un vélo traditionnel à terme. Merci.
Oui, bonjour, Jocelyne à Château-Thierry. Eh bien, je viens d'entendre la réflexion de ce monsieur concernant les vélos à assistance électrique. Je comprends en partie, mais je vais avoir 77 ans et grâce à ça, je peux encore continuer à faire du vélo dans ma région. Donc, vive le vélo électrique pour moi au moins. Merci, au revoir.
Voilà, ça a été « Touche pas à mon vélo électrique » sur le répondeur. Ça vous a fait beaucoup réagir, donc, le message de notre auditeur la semaine dernière qui qualifiait donc les VAE, les vélos assistance électrique, de SUV des vélos. En tout cas, merci pour vos messages. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45. Chaque année, partout sur la planète, des milliards d'animaux se déplacent pour rejoindre différentes parties du monde. Tortues de mer, baleines, requins, mais aussi éléphants, troupeaux à sabots, oiseaux ou papillons, et bien les espèces migratrices voyagent parfois sur des milliers de kilomètres. Mais tout au long de leur parcours, et bien ces animaux sont souvent confrontés à d'énormes défis qui font de leur déplacement une véritable épopée. Et parmi les menaces que rencontrent les espèces migratrices, les pressions liées aux activités humaines qui entraînent le déclin de nombreuses populations animal. Le mois dernier, l'ONU publiait un rapport alarmant sur le déclin de ces animaux voyageurs. La situation y est décrite comme catastrophique, avec une espèce sur 5 menacée d'extinction. Quelle est donc la situation? Comment renverser la tendance? Dossier de la Terre au carré avec nos invités. Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et Philippe Grandcola, écologue, directeur de recherche et directeur adjoint d'écologie et environnement au CNRS. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue, on va voir avec vous que de nombreuses espèces emblématiques et essentielles à l'équilibre de la nature se détériorent. Vous nous direz comment tenter de limiter donc ce phénomène et vous répondrez aux questions des auditoristes concernant aussi ce qu'on appelle le comportement migratoire avec les messages qui arrivent sur la page de la Terre au carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et je vous parle corail avec une nouvelle étude qui montre que diffuser des sons de récifs sains sous l'eau influence le choix des larves sur le lieu où elles vont s'installer. Et je vais tout vous expliquer.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Le Montagnier avec Jérôme Ragano aujourd'hui à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. espèces.
Elles sont là, les hirondelles venues d'Afrique subsaharienne, et elles sont là beaucoup trop tôt. Plusieurs d'entre elles, en fait, ont même passé l'hiver ici, à l'abri des roseaux de la réserve du Banias. Le phénomène n'est pas nouveau, il s'accentue depuis 15 ans, révélateur significatif du réchauffement de la planète. Un phénomène qui menace directement des dizaines d'espèces d'oiseaux d'ici 100 ans.
Ici, dans 100 ans, on pourrait très bien dire qu'on est dans un climat qui correspond au nord du Maroc, avec, par exemple, aujourd'hui, il fait 18, bah, il ferait 25, 24, 25, quoi, à peu près, entre 1,5 et 5 degrés de différence d'ici 50 ou 100 ans. Et forcément, donc, des impacts quand même sur les populations d'oiseaux.
Et ça, c'était il y a 20 ans, en 2004, dans le JT Soir de Montpellier, le conservateur, donc à l'époque, de cette réserve naturelle du Banias, et les choses ne se sont pas améliorées. La vie des espèces migratrices, qui n'est pas un long fleuve tranquille, on en parle donc avec vous, Maude Lelièvre et Philippe Grandcola. Alors, le mois dernier, il y avait une actualité à ce sujet, puisque se déroulait la 14e conférence pour la conservation des espèces migratrices à Samarcande, en Ouzbékistan. Et à l'occasion de l'ouverture, justement, de ce rendez-vous, les Nations Unies publiaient un rapport alarmant sur le déclin progressif des espèces. COP 14 qui a été beaucoup moins bien relayé que la dernière COP climat. Pourtant, Maude Lelièvre, ce qui s'y joue est extrêmement important pour l'ensemble du vivant et de ses espèces.
Oui, c'est une COP ancienne qu'on connaît assez peu. Elle est avant les COP qui ont été fondées à Rio sur le climat, la biodiversité ou la désertification. Et elle joue un rôle majeur pour identifier les menaces qui pèsent sur les espèces migratrices et puis faire leur suivi et mettre évidemment en place des plans stratégiques pour lutter contre leur disparition.
Bon, malheureusement, c'est assez peu relayé, hein. On s'en est aperçu quand même.
C'est une COP d'experts parce que ce sont des sujets assez complexes. Il y a 2000 participants, il n'y a pas tous les side events, tout l'événementiel qu'on trouve sur les COP climat. Elle n'est pas moins importante.
Alors par contre, ce rapport, effectivement, on en a entendu parler parce qu'il est assez étonnant, effrayant même, Philippe Grandcola, puisqu'il s'agit quand même de la destinée et la survie de milliards d'espèces dans le monde.
Alors effectivement, le problème des espèces migratrices, c'est qu'elles ont finalement double, voire triple peine. Hein. Au lieu d'être frappées par des pressions humaines dans une aire de répartition, dans une seule aire de répartition, comme la plupart des espèces, en fait, elles sont tributaires de l'état de l'environnement là où elles vivent une partie de l'année, de l'état de l'environnement dans l'endroit où elles vont une autre partie de l'année, et puis bien sûr, de l'état d'environnement au moment de leur voyage entre les deux endroits. Donc ça les rend particulièrement vulnérables et sensibles aux pressions qui sont celles aujourd'hui sur le globe créées par les humains.
Donc c'est cette spécificité de migration qui les rend vraiment vulnérables. C'est la nature même, au fond.
Bien sûr, oui. Il y a évidemment des cas très particuliers. Hein, quand on parle d'un papillon, d'une antilope, d'un chimpanzé ou d'une baleine, les conditions sont différentes, mais on retrouve à chaque fois les grandes types de pression du milieu, qu'il s'agisse de la disparition des habitats, la modification des ressources ou du changement climatique qui influence toutes ces espèces d'une manière ou d'une autre.
On va en parler évidemment pendant toute cette émission. En 1979, Maude Lelièvre était adopté un traité mondial, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. C'était quoi l'objectif à l'époque de lancer justement cette convention ?
C'était justement d'évaluer les menaces sur les espèces. D'ailleurs, c'était un angle de juriste, puisque les juristes de l'UICN, de la Commission droit, avaient participé à l'écriture du premier texte, qui est devenu ensuite la Convention de Bonn. Et puis, l'objectif reste le même, édicter des grands principes et pouvoir produire des rapports scientifiques en appui.
Ouais. Et le bilan, c'est quoi alors ?
Le bilan
depuis 1979, parce qu'on voit ce qui sort justement, les résultats, l'état des lieux est vraiment catastrophique. Donc c'est quoi ? C'est un échec de cette convention ?
Non, je pense qu'on n'aurait pas ces indicateurs, parce que c'est une COP d'indicateurs, on n'aurait pas ces indicateurs, ces rapports scientifiques en appui, on ne saurait pas où on va. D'ailleurs, c'est toute la bataille que mène l'UICN dans chacune des COP, et notamment la COP biodiversité, qui est l'autre COP qui porte sur les espèces, c'est d'avoir des indicateurs, sinon on en reste à l'état de plaidoyer.
Donc, il y a des rapports... Donc c'est vraiment de la donnée scientifique, c'est ça ? C'est de l'observation pour avoir précisément un état des lieux de ce qui se passe à l'échelle de la planète.
Hein. De la donnée scientifique et de la donnée géopolitique en partie, puisqu'en fait, par exemple, ce qui a été adopté dans les résultat, il y a cette fameuse zone de protection en Asie qui est un plan stratégique qui va traverser un grand nombre d'États. Et bien, il faut en gros mettre tous les États au même niveau de protection. Sinon, si on individualise les solutions, si on n'a pas une approche collective à travers ces corridors de migration, alors on ne traite pas le sujet en amont. Ouais. Donc vraiment, c'est un double regard, celui de la diplomatie et celui des scientifiques.
Ouais, donc c'est tout le casse-tête, Philippe Grandcola, parce qu'on voit ces espèces qui traversent de très nombreux pays. Si effectivement, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est quasi mission impossible, non ?
Oui, effectivement, hein, c'est la particularité de la biodiversité par rapport au climat, c'est qu'elle est un petit peu plus locale, et malheureusement, cet aspect local chez les espèces migratrices, c'est pas le cas. Donc, effectivement, la convention sur les espèces migratrices, c'est en quelque sorte une convention cadre qui permet après qu'il y ait des conventions spécifiques qui soient signées pour telle ou telle espèce, parce que chaque espèce, lors de sa migration, et puis compte tenu de son aire d'hivernage et de son aire d'estivage, va poser des problèmes particuliers entre des états particuliers.
On parlera par exemple du papillon monarque tout à l'heure avec vous. Il faut imaginer que ce papillon traverse des milliers de kilomètres du Canada au Mexique aller-retour.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que sur son chemin, il y a le Canada, les États-Unis, le Mexique, et il faudrait que tout le monde
se mette d'accord
d'un point de vue législatif pour protéger par exemple ces espèces.
Tout à fait, oui, et qu'il y ait des mesures efficaces soient prises dans chacun de ces territoires, et d'ailleurs des mesures qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Hein. Donc ça suppose de régler des problèmes à chaque fois assez complexes.
Donc c'est toute la difficulté effectivement pour la protection avant tout de ces espèces. Maud Lelièvre, alors les principales menaces, on en a un tout petit peu parlé rapidement avec Philippe Grandcola. Qu'est-ce qui perturbe d'abord ces espèces migratrices ? Alors on parlait des activités humaines, mais il y a quoi dans tout ça ?
Les activités humaines, ça veut dire derrière la perte de l'habitat, la surexploitation des territoires, c'est une des deux grandes menaces. Et puis l'autre, c'est évidemment l'impact du changement climatique, les effets qui sont directs et indirects, parce que ce sont des espèces qui sont perturbées non seulement dans leur survie, comme on a sur les espèces non migratrices, mais aussi dans leur temporalité de migration, dans leur reproduction, dans leur corridor de migration. Donc en fait, on a sur en raison des conditions climatiques, un certain nombre de choses qui changent. Et concrètement, en exemple, ça veut dire qu'une espèce va devoir parcourir beaucoup plus de territoire, contourner des obstacles parce qu'il y a une fragmentation de son habitat, parce qu'elle va devoir s'adapter aux températures.
Bon, on l'entendait dans l'exemple tout à l'heure qu'on mettait en introduction de l'émission sur le changement tout simplement des températures. Ça perturbe absolument tout le cycle pour un oiseau, par exemple, qui a l'habitude de se nourrir en arrivant à un point donné et qui ne trouve pas forcément les insectes qu'il attendait, c'est ça ?
On a une dichronie en fait avec des insectes qui vont éclore beaucoup plus tôt, enfin des œufs qui vont éclore plus tard ou plus tôt, et puis des insectes qui vont être reproduits pas à la bonne période. Donc ces arrivées trop tardives ou trop précoces jouent beaucoup sur ces espèces migratrices. L'évolution des températures, c'est vraiment le facteur important, et c'est aussi un peu la conclusion de cette COP. Ça faisait partie des éléments qui étaient moins mis en lumière dans les négociations précédentes, notamment en Inde il y a 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, dans les conclusions de la COP, cette question climatique fait partie des grands principes qui ont été mis en avant.
On ne peut plus séparer clairement les choses entre biodiversité et climat. On en a tellement parlé avec vous, Philippe Grandcola, mais là c'est un exemple flagrant, au fond, d'une fusion des deux thématiques, qui sont incontournables.
Tout à fait, en fait. Pour employer un aphorisme célèbre, on n'a qu'une seule planète. Et effectivement, c'est complètement absurde de mettre de côté la question du climat, la question de la biodiversité. À l'origine, il y a un sens que des experts spécialistes de la physique, du climat ou de l'évolution du vivant traitent un certain nombre de problèmes de chacun de leur côté. Mais évidemment, ça demande une analyse globale à chaque fois.
On parlait donc de la surexploitation dans les menaces qui pèsent sur ces espèces migratrices. C'est quoi alors ? C'est la chasse, par exemple, ou la pêche ?
Oui, effectivement, il y a des aspects. Tous les aspects qui frappent les espèces d'une manière générale frappent également les espèces migratrices. Donc effectivement, surexploitation, quand il s'agit d'espèces qui sont pêchées, comme par exemple les thons qui migrent, ou certains requins, ça peut être la perte des habitats, effectivement, par exemple pour les papillons dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi même les pollutions. Les chimpanzés, par exemple, sont, on le sait, particulièrement atteints. Il y a même des malformations qui sont constatées dans des populations de chimpanzés parce qu'ils ont été exposés à des pesticides qui sont épandus dans des régions adjacentes à leur répartition.
Sabrina Krief, nous en a souvent parlé ici.
Voilà.
Elle est primatologue et elle observe ce phénomène en Ouganda, par exemple.
Oui, tout à fait. Et puis, les espèces exotiques envahissantes, quelquefois, par exemple, elles peuvent aussi poser problème parce qu'elles vont se substituer à certaines espèces locales. Par exemple, une plante envahissante en Amérique, en fait, se substitue aux plantes qui sont les plantes nourricières des papillons monarques. Donc, malheureusement, il y a un faisceau de pression au premier chef, bien sûr, quand on parle de migration, on pense au climat, parce que c'est vraiment une des conditions clés pour effectuer un voyage saisonnier, il y a bien d'autres pressions, malheureusement, qui œuvrent de concert.
Alors, on verra si certaines espèces sont plus touchées que d'autres avec vous dans un instant, et puis des solutions, il y en a, heureusement, on en discute ensemble jusqu'à 15h. Pretty face, pretty smile, pretty grace, pretty style.
in, pretty out, pretty skin, pretty doubt, pretty win, pretty loss, pretty last, pretty first, pretty face, pretty smile.
C'était la voix de Jeanne Adède sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le sanctuaire El Rosario capte 60% des papillons monarques migrateurs arrivant au Mexique. Dans le Michoacán, l'habitat du papillon monarque est menacé par la déforestation croissante, notamment au profit de la culture d'avocat. Le papillon monarque est aussi affecté du Canada au Mexique par l'usage de pesticides. Depuis les années 90, on estime entre 22 et 72% la perte de population de cette espèce unique.
Voilà, ces papillons donc en décembre 2022 sur France 24 pour évoquer les menaces qui pèsent sur les espèces migratrices avec Maud Lelièvre de l'UICN et Philippe Grandcola du CNRS. Avant justement de parler de ces papillons monarques avec vous, Philippe Grandcola, est-ce que vous pourriez nous donner la définition de ce qu'est vraiment une espèce migratrice? Parce qu'effectivement, on en parlait là pendant Jeanne Adède, mais c'est vrai qu'il y a des espèces auxquelles on ne s'attend pas du tout en réalité, hein.
C'est vrai que souvent, on ne pense pas tellement aux espèces transfrontalières. En fait, une espèce migratrice, c'est lorsqu'une toute sa population, une partie de sa population, franchit de façon régulière et prévisible une frontière administrative. Donc évidemment, quand on a une carte comme celle de l'Afrique, où on a des frontières géopolitiques qui ne sont pas forcément les frontières des écosystèmes ou les frontières historiques, elles le franchissent d'autant plus facilement. Et ça peut être une seule frontière, ce n'est pas forcément un oiseau qui va se déplacer à travers 10 pays.
C'est ça, ce n'est pas forcément des milliers de kilomètres. Et donc tout à l'heure...
Moi je demandais sur les chimpanzés, je disais je ne savais pas que les chimpanzés étaient considérés comme une espèce migratrice. Mais donc si, parce que régulièrement et de façon prévisible, ils se déplacent même si c'est de quelques kilomètres.
Et ce sont des espèces frontalières. En fait, on a beaucoup de cas et peut-être peut rajouter qu'en fait on a un angle qui n'a pas été tellement abordé par la COP, celui des conflits armés. Or, c'est un sujet qui est forcément très connexe avec celui des espèces migratrices puisque on n'a pas forcément de données, pas forcément de capacité de négociation. Or, on a beaucoup d'espèces concernées.
Ouais, quand la géopolitique s'invite aussi dans le débat autour de ces espèces migratrices, Philippe Brancola. Alors là, pour le coup, le papillon monarque, je crois que tout le monde a cette image, effectivement, de cet insecte capable de parcourir des milliers de kilomètres, donc entre le Canada et le Mexique. Et vous le connaissez bien, ce papillon monarque. Il fait partie aussi des espèces extrêmement menacées.
Alors effectivement, le papillon monarque, il parcourt, comme vous l'avez dit, à peu près presque 4000 kilomètres, et donc c'est considérable. Alors il parcourt du nord au sud lors d'une seule génération, donc ça veut dire que quand même ce sont des papillons qui sont portés par les courants aériens, mais qui sont tributaires aussi des endroits dans lesquels ils peuvent s'arrêter momentanément. Et si ces endroits sont endommagés, s'il y a des forêts dans lesquelles il n'y a plus de quoi vivre pour le papillon, évidemment, ça lui pose problème. Et
puis, donc c'est le même même papillon qui va faire le voyage du Canada au Mexique.
Voilà. Et alors, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au retour, en fait, le voyage retour, ce sont pas les mêmes individus. Le papillon pont au Mexique, ce sont ses descendants qui, en plusieurs générations, vont remonter vers le nord. Ce qui veut dire que...
Lui, il va mourir au Mexique.
Et donc là, on a vraiment une dynamique qui est liée à l'état de l'environnement, à la fois à l'origine, à l'arrivée, et puis sur tous les endroits où le papillon peut s'arrêter et se reproduire lors de son voyage retour. Évidemment, un papillon, la larve, ce sont des chenilles. Les chenilles mangent des plantes. Et si les plantes dont ce papillon, son tributaire, ne sont plus présentes ou moins présentes, ça pose un énorme problème.
Alors, il souffre de quoi exactement ce papillon monarque? Et c'est vraiment des effondrements de populations qui sont observés?
Effondrements qui sont observés de manière considérable. Là, les chiffres qui ont été mentionnés le montrent. Hein. On a plus de la moitié de certains comptages qui font défaut. Et par ailleurs, en fait, ils souffrent de l'état de l'environnement, à la fois les pesticides dans les aires où ils passent l'été, donc au nord, et puis dans les aires où ils passent l'hiver, donc au sud, et l'état de l'environnement aussi lors de ces arrêts successifs sur la voie de migration. Il faut savoir que ce sont des papillons dont les chenilles se nourrissent uniquement d'Asclepiadaceae, c'est une famille de plantes particulières. Évidemment, quand il se reproduit au Mexique, si ces plantes lui font défaut, les chenilles n'arrivent pas à se développer.
Mais ça veut dire que en volant, en fait, les pesticides ont un effet sur ces insectes.
Alors les pesticides ont un effet en particulier dans les endroits où il va prendre de la nourriture, où il est en contact avec la végétation. Hein, donc c'est évidemment surtout à l'arrivée et au départ. Et le problème aussi, c'est que les plantes nourricières, elles sont quelquefois supprimés parce que les habitats changent, parce qu'on n'a plus un habitat sauvage, mais on a un habitat transformé avec des cultures, etc. Donc, mais ces plantes nourricières sont également concurrencées par une espèce envahissante qui les empêche de se développer. Et donc le papillon souffre de tout ça, et en plus évidemment de tous les aléas climatiques. Quand le papillon se trouve dans des conditions qui sont un peu défavorables, il va avoir tendance à migrer plus tôt ou plus tard d'une manière qui lui est défavorable au final.
Mais pourquoi, au fond, il faut s'inquiéter de la situation, par exemple, du papillon monarque, Philippe Grandcola?
Alors, il y a au moins deux bonnes raisons. Il y a une raison déjà éthique. On ne peut pas se dire de sang-froid qu'on va supprimer des espèces qui existent à la surface de la Terre sans se poser de questions. Et puis, il y a une question fonctionnelle. Les papillons, comme plein d'autres insectes, ce sont aussi des pollinisateurs.
Donc, ils nous rendent des services.
Voilà, tout à fait. Ils rendent des services aux vivants et par conséquence aussi à nous, quelque part, puisque nous en faisons partie. Donc, évidemment, le papillon, c'est peut-être pas l'organisme qui nous semble le plus important au quotidien. Néanmoins, il a le droit de continuer à vivre. Et en l'occurrence, ce papillon, il a aussi une importance symbolique non négligeable pour les populations humaines, qu'il s'agisse des populations mexicaine, nord-américaine ou d'Amérique centrale. C'est un exemple scolaire, pédagogique pour expliquer le cycle de vie d'un papillon, ce qui permet de comprendre aussi à chacun ce que c'est que le vivant.
Vous qui êtes spécialiste des insectes, est-ce que les fourmis, par exemple, pour répondre à la définition que nous donnait Maud Leliette, ça fait partie des espèces migratrices ou pas? Parce qu'elles parcourent aussi beaucoup de kilomètres parfois, arrivent à franchir des frontières.
Alors la limite de cette définition, c'est qu'évidemment elle s'adresse surtout aux espèces on va dire charismatique, des grandes espèces de...
Quoi, une fourmi n'est pas charismatique? Qu'est-ce que vous dites?
De mon point de vue d'entomologiste, elle l'est certainement, d'un point de vue des décideurs et des gouvernements, parce que les conventions des partis sont quand même d'abord des réunions gouvernementales, certainement un petit peu moins. Et puis, il y a effectivement aussi une petite différence entre la définition juridique, qui est une définition qui a pour but de protéger des organismes qui vivent de part et d'autre d'une frontière, avec des déplacements qui peuvent être finalement relativement quotidiens. Et puis la définition scientifique de la migration, qui consiste à considérer que dans une population, il y a des individus qui changent de lieu de vie de manière saisonnière la plupart du temps, pour des raisons biologiques bien particulières.
Maud Lelièvre, est-ce qu'il y a une espèce au monde plus menacée qu'une autre, une espèce migratrice, là, dans le rapport qui a été sorti donc par l'ONU sur une espèce sur cinq menacée?
Alors malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a intégré 14 nouvelles dans à l'issue de cette COP, et que on aurait pu en intégrer sans doute plus. On va peut-être donner un exemple qui pourra être parlant, celui du requin-tigre des sables, qui est une espèce mal aimée parce qu'elle a un aspect assez menaçant alors qu'elle est assez inoffensive et qui est victime à la fois de deux choses. D'abord, c'est une espèce qui se reproduit lentement, donc il y a une pression démographique qui s'exerce et elle fait l'objet de convoitises, de pressions sur son habitat et de pressions en matière de pêche. Et donc, elle est aujourd'hui en danger. Elle fait partie des espèces qui ont été citées dans cette COP comme étant extrêmement, extrêmement en danger. On pourrait en citer d'autres.
Alors, les poissons en général, hein, je crois qu'il y a vraiment, ils souffrent énormément. Précisément
de... il y a trop de pression en fait dans le milieu marin, évidemment sur ce qu'on connaît et ce sur quoi on essaie de se mobiliser en matière diplomatique au plan international, le surplastique, le plastique qui inonde tous les océans, mais effectivement on a le réchauffement climatique qui fait changer les courants marins, et puis ce qu'évoquait Philippe, la surpollution. De façon générale, on a trop d'activités sur le même territoire. On peut, même sur les côtes, on peut avoir de l'éolien, des activités de pêche, des activités de loisirs, de la construction, des infrastructures. Si on met tout bout à bout, c'est ce d'ailleurs sur quoi s'est battu Lucène, c'est il faut éviter la surexploitation d'un territoire parce qu'en fait, on ne peut pas retrouver un équilibre. Et donc aujourd'hui, évidemment, toutes les espèces marines en souffrent.
Pourtant, on se dit que l'océan est quand même très vaste et ce dont vous parlez, les activités sont quand même très près des littoraux, mais ça suffit à venir perturber toutes les espèces, toute la chaîne.
Alors sur le réchauffement climatique, ça perturbe tout l'océan.
Par rapport aux activités dont vous parlez.
Les activités, ben, on a quand même, c'est presque une autoroute hein, sur certaines voies, les voies marines. On a beaucoup de tonneurs, beaucoup de transports maritimes. On ne le voit pas forcément parce que c'est loin. Mais en fait, c'est quand même une activité importante. Et puis, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est aussi l'exploitation et l'exploitation des grands fonds marins, l'exploration parfois, mais surtout l'exploitation sur laquelle on n'a pas de contrôle. Si quelques pays se sont engagés, c'est évidemment pas suffisant aujourd'hui. Et puis, on a toute la partie qu'on ne voit pas de commerce ou de trafic ou d'exploitation illégale.
On parlera avec vous tout à l'heure du comportement migratoire. C'est scientifiquement aussi intéressant de pouvoir l'expliquer. Vous êtes nos invités dans la Terre au Carré cet après-midi.
France Inter, la Terre au Carré.
Il est 14h30, on passe au vert avec vous Camille Cronier.
Sous l'eau aujourd'hui, où le corail souffre énormément à cause du changement climatique qui augmente la température des océans et les acidifie, la Grande Barrière en Australie est en train de subir un nouveau blanchissement massif et ce n'est que le dernier exemple en date. Mais le corail est vaillant et résilient, enfin jusqu'à un certain point. Donc nombreux sont les scientifiques qui tentent de trouver des solutions pour restaurer ces récifs ultra, ultra précieux. Je rappelle qu'ils sont les écosystèmes les plus riche de la planète et abrite un quart de la vie marine. Et parmi les pistes, il y a l'utilisation du son. Une équipe britannique avait montré il y a quelques années que diffuser sous l'eau du son d'un récif plein de vie attirait les poissons, les crustacés et autres invertébrés. Ça permettait donc de remettre de la vie ou de la renforcer là où elle commençait à faiblir. Mais d'autres chercheurs ont voulu aller plus loin. Une équipe menée cette fois par une américaine de la Woods Hole Oceanographic Institution, Nadege Aoki.
Ce qu'on a fait dans l'étude, c'est de tester si diffuser sous l'eau des sons de récifs coralliens sains pouvait être déterminant pour l'installation des larves de corail. Parce que c'est le moment où ces larves choisissent où elles vont grandir et passer le reste de leur vie, donc c'est vraiment crucial pour elles.
Le son peut-il influencer carrément les larves? Eh ben, devinez quoi?
We found that coral larvae will settle in response to replayed reef sounds.
Bingo! Elles s'installent deux fois plus, oui, deux fois plus, là où du son de récif sain est diffusé. Et voilà à quoi ça ressemble. Et elle explique ce qu'on entend. Les petits crépitements en fond sonore, c'est surtout les crevettes pistolées. Et puis on entend des petits pops, des grognements, des gargouillis. Et là, c'est les poissons, des bruits qu'ils font en mangeant, en se battant ou en s'accouplant. En tout cas, une vraie symphonie sous-marine. Enfin, on appelle ça un chœur, en fait. Et écoutez bien la différence avec un récif dégradé, je vous préviens. Tendez l'oreille, c'est parti. Voilà, ça se passe de commentaires, c'est quand même très différent. Mais depuis tout à l'heure, vous vous demandez peut-être, comme moi en tout cas je l'ai fait en découvrant l'étude publiée la semaine dernière dans la revue Royal Society Open Science. Attends, genre le corail et même les larves de corail, ça entend. Mmh. Eh bien oui, ça entend. Explication avec le biologiste marin spécialiste des sons d'invertébrés marins et co-auteur Youen Jezekel de l'université de Brest.
En fait, ils ont probablement des poils sensoriels qui sont capables de détecter les mouvements des particules d'eau liées au son, la vibration des particules d'eau. C'est encore très peu étudié, mais c'est probablement la partie anatomique qui serait responsable de cette détection sonore.
Voilà, des cils sensoriels précisément. Et j'anticipe votre autre question. Oui, les larves s'orientent elles aussi. Elles ne tombent pas au pif comme ça au fond de l'eau, mais choisissent bien, comme le disait Nadège Aoki, le lieu où elles vont vivre. Par contre, l'équipe soulève un élément de taille.
On ne sait pas encore à quel point les signaux acoustiques jouent un rôle dans l'orientation des larves.
Parce que d'autres paramètres entrent en jeu dans ce processus, et en particulier les signaux chimiques, hein, l'état de la colonne d'eau. Donc le son joue bien un rôle, mais dans quelle proportion? Mystère pour l'instant. C'est pour ça que Youen Jezekel insiste.
L'idée, c'est d'ajouter une pierre à l'édifice en disant aux scientifiques et aux restaurateurs des récifs coralliens qu'il y a cet outil-là qui peut être implémenté en plus de ce qui se fait déjà pour réparer les coraux. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui va changer la donne. Si on ne change pas non plus avec ça les conditions environnementales derrière. Quoi. Parce que si les conditions environnementales sont de base pas bonnes pour que les larves s'installent, elles vont beau venir s'installer sur ces récifs morts, elles vont quand même mourir et pas s'installer.
Priorité donc à agir sur la cause, hein, le réchauffement plutôt que ses effets, pour que la symphonie des coraux continue. Notre vie à nous en dépend aussi.
Merci beaucoup Camille Cronier. On peut réécouter ces petits gargouillis sur franceinter.fr à la page de l'émission.
Philippe Grandcola, pareil, les coraux, alors on en parle un peu plus parce que c'est un petit peu plus dans l'opinion publique, on va dire, mais on a tendance à sous-estimer souvent l'importance que ça a pour tout le monde, quoi.
Oui, tout à fait. On les voit comme de très belles images de reportages colorés ou pour des vacances de luxe, alors qu'en fait, il y a 30% des espèces marines qui se trouvent dans les récifs coralliens, donc plus de récifs, on perd un tiers de la biodiversité marine. Les gens qui vivent à côté, bien sûr, en dépendent. Et puis, il y a des tas de rôles qu'on ignore chez les coraux au sens commun. Par exemple, ils jouent le rôle de digue contre les tsunamis. Donc, il y a des régions qui sont propices aux tsunamis à cause des séismes ou des glissements de terrain sous-marins. Et en fait, les coraux protègent 100 à 300 millions de personnes contre ces tsunamis. Donc, plus de coraux, évidemment, petit à petit, ces coraux morts vont se fragmenter. Ils ne protégeront plus ces personnes.
Maud Lelièvre, il disait, hein, il soulignait bien que c'était un outil supplémentaire et que c'était évidemment pas... la nécessité absolue, c'est évidemment de s'occuper des causes, donc du réchauffement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on a tendance à chaque fois à gérer les impacts plutôt que la source des problèmes?
On essaie de gérer dans l'urgence, mais j'allais dire la source principale du problème, c'est quand même l'homme. Vous évoquiez les coraux. Aujourd'hui, la mode aux États-Unis, c'est d'avoir, lorsque vous avez un bel appartement new-yorkais, d'avoir un crâne de chimpanzé jeune, et puis des morceaux de coraux assez conséquents en exposition entre vos livres et vos œuvres d'art. Donc, le braconnage et la surexploitation à des fins non utiles et de loisirs doit absolument être arrêté.
En tout cas, les activités humaines sur la faune marine sont bien documentées, là aussi, hein, les conséquences.
Oui.
Sur le bruit, justement, sur la faune.
Ah oui, les effets qu'on évoquait tout à l'heure, la pollution sonore, elle a des effets sur la reproduction et sur la mortalité, mais même sur les plantes d'ailleurs. Pas besoin d'aller en milieu marin où on voit que les arbres poussent moins bien, tout simplement s'il y a trop de pollution sonore.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier sur les espèces migratrices.
Ce soir sur le scout, j'ai abîmé ton cœur. On a pris la route, dans Paris y a pas d'heure, et cette fois y a pas de doute. Je vois plus les couleurs, c'était encore un shoot de trop d'erreurs. Et je conduis bourré, non faut pas le faire, mais j'ai bien essayé. Tu me tiens par derrière et je sens ton odeur de parfum et de vodka. Je sais que c'est la peur qui te retient à moi. Oui, j'ai tout caché encore une fois dans mon téléphone, ta faute. Fallait pas. Et j'ai frappé les murs, j'ai cassé. c'est la porte. Je te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant j'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
Quand je m'en veux. WhatsApp sur écoute, j'ai grillé toutes mes chances. T'en as plus rien à foutre, ça c'est ce que tu me balances. Balance-moi tes plus belles insultes, j'ai pas peur du hardcore. Tu peux me traiter de pute, moi je peux encaisser encore. Bébé j'accélère, Paris est flou. Pourquoi je fais tout pour te perdre? Pourquoi je sabote tout? Et j'ai le cœur qui se serre. Si tu veux plus rien du tout, plus rien c'est déjà beaucoup.
Déjà.
Oui, j'ai tout gâché encore une fois. Dans mon téléphone, t'as fouillé. N'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs, j'ai cassé la porte. J'te balance des injures quand la colère m'emporte. Et maintenant, j'ai que mes yeux qui pleurent pour deux quand je m'en veux.
C'était la voix d'Emma Peters et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Ce milieu-là, qu'on appelle la roselière, a un double intérêt. Il a un premier intérêt par rapport à la filtration de l'eau, puisqu'il a un système racinaire qui va lui permettre de filtrer tout ce qui est éléments chimiques indésirables à l'environnement. Et le second intérêt, ça va être pour la biodiversité au sens large, parce que ce milieu qui est donc assez rare, dans lequel on va retrouver des oiseaux dits paludicoles, des oiseaux inféodés à ce milieu-là.
Des oiseaux qui nichent ici uniquement grâce à l'existence de cette roselière, comme le butor étoilé en voie de disparition. Alors il est indispensable de prendre soin de ces lieux de biodiversité, délaissés et maltraités pendant de nombreux siècles.
Extrait d'un reportage de France 3 Grand Est en mars 2023 avec Rémi Anotel de la Ligue de protection des oiseaux. On parle des menaces qui pèsent sur les espèces migratrices avec Maud Lelièvre de l'UICN et Philippe Grandcola du CNRS. Philippe Grandcola, un mot sur les zones humides qui font partie aussi de ces territoires d'escale, on va dire, pour certaines espèces.
Hein. Oui, tout à fait. En fait, les espèces qui font le va-et-vient entre des zones humides au nord et au sud, effectivement, ont besoin de ces zones humides, y compris lors de leur voyage pour faire escale. Et les zones humides, on le sait, malheureusement, elles sont victimes à la fois des constructions, des villes qui s'étendent, et puis des activités agricoles, industrielles, qui n'aiment pas avoir des parties de territoire qui sont restées inexploitées. Et pourtant, les zones humides, elles ont bien d'autres fonctions. Elles abritent bien sûr cette biodiversité, notamment migratrice, mais elles stockent aussi de l'eau. Elles en retiennent quand il n'y en a pas assez ou quand il y en a trop. Et puis, elles stockent de la biodiversité, et bien sûr, elles permettent de stocker aussi du carbone. Ne sont pas des zones à miasme, hein, comme on a tendance à les considérer de manière un peu
avec des zones humides.
Voilà, ce sont des zones, en fait, ce sont des sortes de centrales d'épuration, un réservoir de biodiversité.
Et qui sont vitales pour certains oiseaux qui viennent nidifier, on l'entendait dans cet extrait. Camille, les messages.
Betty voudrait savoir, Maud Lelièvre, si le lynx est une espèce migratrice et si elle est en voie de disparition, cette espèce.
Alors, le lynx, c'est effectivement une espèce en voie de disparition, sur lequel d'ailleurs il y a beaucoup de tentations aujourd'hui, comme le loup que vous évoquiez en introduction, des tentations de déclassement.
De déclassement de protection.
De déclassement de protection, puisque un certain nombre, notamment d'agriculteurs, considèrent que c'est une espèce nuisible. Et puis effectivement, c'est une espèce qui se déplace.
Donc migratrice, on peut le dire. Et Séverine voudrait savoir, elle, à partir de quand estimez-vous qu'une espèce doit être protégée? Qu'est-ce qui dit qu'à un moment on protège
dès l'origine, parce que toutes les espèces sont importantes, elles font partie intégrante de l'écosystème et chacune a un rôle à jouer. On pourrait imaginer, on peut rappeler les oiseaux ou les chauves-souris qui dispersent les graines d'un certain nombre de plantes, qui permettent de produire du papier, des fibres, de la médecine. Plus tard, on a les baleines qui dont les cadavres servent de captation de CO2 au fond des océans. On ne sait pas quand on perturbe un écosystème et quand on fait disparaître des espèces ce qui va arriver demain. C'est surtout ça qu'il faut retenir.
Est-ce qu'on sait ce que représente en nombre justement les espèces migratrices? Est-ce qu'on arrive à calculer ça à l'échelle de la planète ou pas?
On n'a pas tout évalué, comme d'ailleurs pour les espèces non migratrices. Par contre, ce qu'on sait à l'UICN, c'est le nombre d'espèces migratrices qui sont menacées. On en a évalué 4508. Mmh. Alors ça peut sembler peu, mais elles ont fait l'objet d'une évaluation assez précise. Et effectivement, sur celle-là, on connaît déjà les mesures qu'il faudrait mettre en place de façon assez rapide.
Terrestre ou marine, hein.
Terrestre ou marine.
C'est vraiment dans tous les milieux, puisque Philippe Grandcola, ces espèces, on les trouve dans toutes les régions du globe. Il faut parler quand même de ce comportement. Est-ce que justement, il y a des points communs entre des espèces très éloignées les unes des autres, entre les terrestres et les marines par exemple? Est-ce que toutes ont un comportement migratoire pour les mêmes raisons ou pas?
Alors, en règle générale, bon, la question doit être étudiée sur un plan de l'évolution, hein, de savoir de quelle situation évolutive on est parti et quelles sont les pressions de sélection qui peuvent expliquer l'émergence de tel ou tel comportement. En règle générale, ce que l'on observe de manière empirique, c'est que la plupart de ces espèces ont besoin de changer d'habitat à l'occasion des saisons, parce qu'il y a un habitat dans lequel, par exemple, il aurait plus facile de se nourrir, et puis un habitat dans lequel il leur est plus facile de se reproduire. Mmh. Alors, ça nous paraît évident quand on parle d'un oiseau qui peut pas vivre et trouver de la nourriture dans une zone comme le nord de la France, hein, dans lequel il n'y a pas d'insectes ou de fruits pendant l'hiver. C'est un peu plus abstrait pour nous, peut-être, quand on parle d'organismes marins dans des zones d'océan qu'on estime toujours finalement fécondes, hein, fertiles, alors qu'en réalité, là aussi, il y a des fluctuations saisonnières importantes. Et puis après, il y a le voyage. Et le voyage, lui, il est en règle générale basé sur des repères astronomiques. Alors avec des grandes disparités, vous avez des espèces qui sont capables de percevoir les champs magnétiques terrestres, des espèces qui sont capables de faire de l'astronavigation.
Comme les oiseaux, par
voilà,
exemple.
Voilà, tout à fait. Ou même les papillons qui font de l'astronavigation. Et puis, on a aussi de l'apprentissage chez un certain nombre d'organismes qui sont capables de reconnaître des paysages. Hein, par exemple, d'utiliser par exemple le couloir rhodanien, hein, de descendre le long de la vallée du fleuve le Rhône, et puis de reconnaître
les
éléments de paysage.
Et avec voilà. Les vents se laisser
voilà. Donc déplacer. on a évidemment une diversité extraordinaire quand on parle d'un papillon, d'une baleine ou d'un,
oui, c'est ça.
Ou d'un mammifère.
Mais on peut trouver des points communs entre
un
groupe de rennes, par exemple, ou de baleines ou de papillons.
Oui, parce que quelque part, finalement, le nombre de solutions que le vivant a pu inventer pour permettre cette migration, il est relativement limité malgré tout.
Mais alors, ce comportement migratoire, est-ce qu'il est toujours réglé comme du papier à musique chez les espèces? Au contraire, ça peut être parfois très irrégulier.
Alors, il est...
Quand tout va bien, un monde idéal, évidemment. Hein.
Alors, quand tout va bien, il y a une variabilité inhérente au vivant, bien sûr. Hein. Tous les individus ne sont pas tout à fait pareils. C'est ce qui fait aussi la diversité biologique. Ce n'est pas seulement qu'il existe des espèces différentes, mais aussi des individus avec des capacités sensiblement différentes. Et donc, il y a une certaine variation, mais c'est aussi une variation qui protège le vivant, quelque part. Hein, parce que certains de ces individus, par exemple chez les papillons monarques ou chez les baleines, seront capables, une année ou une autre, de mieux se débrouiller par rapport à une variation climatique qui resterait dans un cadre, on va dire, qui n'est pas influencé par l'homme. Évidemment, le problème se corse hein, quand on fait déraper le climat, comme c'est le cas actuellement, et là, on sort des normes, et les signaux qu'utilisent en moyenne les espèces pour régler leur début de déplacement, là, du coup, deviennent des signaux trompeurs.
Et là, c'est la vitesse des changements, justement, qui influence ces espèces et qui ne leur laisse pas le temps, il faut de s'adapter, c'est
oui,
ça qui pose
alors,
problème.
Soit par exemple des étés qui sont un peu pourris, par exemple en Amérique du Nord, et qui vont finalement provoquer le départ un peu prématuré des papillons, ou au contraire, par exemple pour les baleines, des températures d'eau de surface qui deviennent trop importantes et qui gênent le développement du plancton duquel elles se nourrissent. Donc à chaque fois, on a des effets comme ça qui peuvent être finalement, qui peuvent sembler relativement anodins, mais qui vont avoir une importance colossale pour des espèces qui dépendent directement d'une nourriture qu'elles doivent trouver dans le milieu naturel. Hein, qui, il n'y a pas de suppléance comme on peut en imaginer dans l'espèce humaine.
Une petite question de Georges sur les petits animaux migrateurs. Il dit, j'ai l'impression qu'on en parle quand même moins. Philippe Grandcola, vous êtes spécialiste entre autres des blattes. Est-ce que les blattes, par exemple, migrent?
Alors, il y a 4000 espèces de blattes décrites, une vingtaine de milliers, vraisemblablement, dans les écosystèmes naturels, surtout forestiers. Et à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, au plan biologique, il n'y a pas d'espèces migratrices. Voilà, même si quelquefois, certaines pourraient franchir telle ou telle frontière sans les documents administratifs appropriés.
Voilà, vous pourrez le ressortir en dîner, c'est toujours très chic de dire, il n'y a pas de migration chez les blattes.
Voilà, tout à fait.
Alors, migration solitaire en groupe d'ailleurs, hein, Maud Le Lièvre. Là aussi, il y a une grande diversité hein, chez les animaux. Certains choisissent de partir seuls. On parlait du loup d'ailleurs encore tout à l'heure. C'est un animal qui peut vraiment faire beaucoup de kilomètres seul.
C'est un animal qui parcourt des dizaines de kilomètres, qui se déplace. Et c'est un animal intelligent, donc qui sait s'adapter à un nouvel environnement.
Bon, question de Jean qui voudrait savoir quand même s'il y a de l'espoir pour ces espèces migratrices. Maud Le Lièvre.
Ah oui, il faut toujours donner de bons espoirs. Quand on intervient en fait sur les causes de perturbation ou de disparition, on arrive à faire des choses positives. Alors j'aimerais moi peut-être évoquer l'antilope Saïga, qui est une antilope d'Asie centrale, qui était au bord de l'extinction il y a 10 ans, donc c'est-à-dire juste hier.
Elle était sur votre liste rouge ou pas ?
Elle était sur la liste rouge. La population s'était effondrée de 90%. Donc en fait, elle était passée en danger critique d'extinction. Et puis il y a eu une collaboration entre les pays où vivaient ces saïgas qui aboutit à un protocole de conservation de l'espèce. Et aujourd'hui, elle est quasiment menacée. Elle vit sous surveillance. Il y a 1,9 million d'individus.
Mais quasiment donc, menacée, fait, ça veut dire quoi? C'est plutôt positif.
C'est positif. Oui, dans le classement en fait.
Bah oui, c'est étrange comme terme. Quasiment menacée.
En fait, il y a toute une dans le baromètre de la liste rouge des espèces de l'UICN, il y a différentes catégories. Et évidemment, quand on est en danger critique d'extinction, c'est bien pire. En fait, il y a très peu d'espèces qui sont en bon état de conservation, si on regarde. Mais donc,
qu'est-ce qui s'est passé pour cette antilope alors ?
Des protocoles et un travail international de coopération entre les pays.
Donc c'est la politique qui a fait que ça a changé la donne.
La politique et les scientifiques, parce qu'il faut avoir les données, mais en fait, en tout cas, des efforts conjugués pour éviter le prélèvement illégal et non durable, tout ce qui est braconnage, avoir des actions de préservation, et puis lutter contre des pollutions qui jouaient sur cette population de saïgas. Donc ça, c'est plutôt dans les bonnes nouvelles, parce qu'il faut toujours trouver des bonnes nouvelles.
On peut renverser la tendance assez rapidement quand même.
Ça a été le cas dans le thon, qui est dans les bonnes nouvelles qui avaient été apportées au moment du congrès mondial de l'UICN qui s'était déroulé en France, mais parce qu'on a mis en place des mesures. Ça ne revient pas tout seul de façon spontanée. Lorsqu'on a détruit un écosystème, qu'on a détruit des populations, qu'on a joué sur les proies, qu'on a répandu trop de pesticides, ça ne peut pas revenir à l'état naturel tout seul.
Mais comment ça se détermine dans les discussions de couloir? Parce qu'il y a un moment, si les États disent « Ok, on va faire quelque chose pour le thon », c'est qu'il y a des enjeux économiques, j'imagine, et pour les antilopes, en l'occurrence. Enfin, préjuger, mais je ne suis pas sûre que ce soit juste pour le bien-être du thon ou de l'antilope, en l'occurrence.
Pour le thon, en fait, il y a quand même eu un travail qui a été fait, y compris, c'était pas principalement mes amis au début, mais par les acteurs de la pêche industrielle qui se sont dit qu'en atteignant définitivement à leurs ressources et à ce qui fondait quand même leur économie, demain, il n'y en aurait plus. Donc, il y a eu des mesures, des quotas alliés à l'action publique. On n'a pas toutes ces préservations si on n'a pas d'action publique et d'action diplomatique. Et puis, évidemment, protéger des espèces qui peuvent être emblématiques de certains territoires, ça fait partie de l'action de la diplomatie.
Si on écoute que l'économie, ça veut dire qu'il faut que l'espèce soit emblématique ou intéressante économiquement. C'est un peu cynique quand même, non? Ça veut dire qu'elle, on la protège et elle, on s'en fiche, quoi.
Non, ce sont des accords internationaux. Effectivement, c'est plus facile d'obtenir des fonds, d'ailleurs que ce soit pour la recherche ou pour la préservation, sur des espèces qu'on va avoir des espèces anthropomorphiques qui vont plaire à l'homme parce que, comme le chat de palace, va avoir des poils, des moustaches, va ressembler à quelque chose qu'on connaît. Je pense que c'est plus difficile chez mon collègue lorsqu'on parle d'insectes, par exemple.
C'est vrai que fédérer autour des blattes, c'est un long combat pour vous, hein, Philippe Grandcola.
Et même à propos des moustiques, vous savez, 3000 espèces de moustiques, une vingtaine qui causent des centaines de milliers de morts chaque année, et pourtant, les 3000 restantes, elles sont indispensables à la survie de tous les animaux.
C'est la première cause de mortalité dans le monde, hein, les moustiques. Hein.
Oui,
c'est presque 1 million de morts par an. Hein.
Tout à fait, mais c'est une vingtaine d'espèces. Alors, il y en a 2980, si je puis dire, qui, elles, permettent aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux de se nourrir, de survivre.
En tout cas, la seule bonne nouvelle, finalement, dans cette histoire de réduire les pressions autour de ces animaux, c'est que les principaux facteurs de déclin sont connus. et qu'on a aussi les solutions pour arrêter tout ça. C'est déjà un bon départ, en tout cas, non ?
Oui, tout à fait. Et puis après, il faut essayer de voir les choses de manière systémique. Alors, le fait de protéger certaines espèces charismatiques, on pourrait dire que c'est un peu cynique ou un petit peu politique, mais quelque part, ces espèces, outre leur intérêt individuel, malgré tout, elles font aussi partie de systèmes, et donc elles portent un peu un étendard de la préservation. Si on protège une espèce, on doit protéger son environnement, et donc quelque part, ça contribue aussi à la protection de l'environnement autour de cette espèce.
Du soleil, des boissons anisées, nos voyages sont pareils et désorganisés. Oh, tu sais, on voudrait des amis, des journées de repos. On a tant d'ennemis dans les jeux vidéo. Oh, tu sais. Et les congèles débordent, et la fatigue s'installe comme un retour à l'ordre. On est tous pareils, on est tous pareils.
Pareil, Florent Marchais sur France Inter, Maud Lelièvre de l'UICN, Philippe Grandcola du CNRS avec nous pour parler de ces espèces migratrices. Maud Lelièvre, quelles sont les premières mesures à prendre en urgence si on veut tenter d'enrayer le déclin de ces espèces aujourd'hui ?
Alors, elles seraient nombreuses, mais on peut peut-être parler d'abord et avant tout de la destruction des habitats naturels avec l'agriculture intensive, le surpâturage, le tourisme, l'urbanisation, l'industrie, la construction de linéaires routiers. C'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la COP. Il faut arrêter de couper toutes les routes, tous les corridors écologiques. Ça, c'est sans doute une urgence absolue en matière d'urbanisme et d'aménagement. Et peut-être en second point, la lutte contre les pesticides. Aujourd'hui, on l'a vu dans les conclusions et les analyses de cette COP, on a beaucoup d'espèces qui disparaissent parce qu'elles sont contaminées, parce que simplement leurs proies vont avoir été contaminées par des insecticides, des pesticides. C'est le cas du chat de palace qui est rentré dans les espèces protégées.
Le
chat de palace.
Très bien.
Et on est bien parti pour, donc, sur les pesticides, n'est-ce pas ?
Alors, pas tout à fait, mais je pense qu'on n'a pas encore intégré totalement la dangerosité, et pour l'homme, et pour le milieu vivant en général. D'ailleurs, Jane Goodall citait souvent l'exemple des chimpanzés qui étaient intoxiqués par les fruits qu'ils mangeaient, par l'eau qu'ils buvaient dans les rivières, parce que en fait, leur écosystème est complètement pollué, par exemple, par la culture du coton.
Philippe Grand-Colas, quand vous voyez ce qui se passe sur les pesticides en ce moment, en France en particulier, et en Europe plus généralement?
Ben c'est désastreux et ça nuit à tout le monde, y compris aux agriculteurs, hein, qui sont les premières victimes de l'exposition aux pesticides, comme ça a été très bien démontré par une étude, une expertise collective de l'INSERM, qui était basée sur 5000 publications. Voilà, donc malheureusement...
Vous avez des nouvelles du plan éco-phyto, parce que il y avait une échéance qui était celle du salon de l'agriculture, la petite pause là qui était prévue, ça devait s'arrêter au moment du salon, et qu'est-ce qui se passe là?
Alors, personnellement, j'ai pas d'informations. Effectivement, une nouvelle version devait être sortir et qui devait prendre en compte un indicateur sensiblement différent. Alors évidemment, on a beaucoup d'attentes sur un indicateur, puisque ce qui était apparu, c'est que l'ancien indicateur avait finalement le grand inconvénient de montrer qu'on avançait guère. Donc évidemment, ça serait de manière assez cynique. On s'attend peut-être malheureusement à ce que ce nouvel indicateur ne permette pas d'avancer autant. Ouais. Ce qui est évident avec les pesticides de manière générale, c'est qu'on a un problème de transformation de système. C'est pas seulement un problème de baisser telle ou telle pollution, c'est ce que l'IPBES appelait un changement transformateur. On doit changer un système de production, et pas sans les agriculteurs, mais avec les agriculteurs, en les aidant.
Et le gouvernement a dit que le plan serait présenté de manière définitive début avril. Voilà le nouveau calendrier. Une dernière petite question rapide, Mona, qui voudrait savoir si les champs de panneaux solaires perturbent les espèces migratrices. Elle est au pied des Pyrénées, où fleurissent de nombreux projets, dit-elle. Maud Lelièvre. Ça fragmente les habitats, comme vous le disiez tout à l'heure.
Ça couvre en tout cas une partie des aires qui étaient des aires plus naturelles. Et puis il faut voir si c'est notamment éclairé la nuit, parce que c'est le cas de beaucoup d'infrastructures. Et on avait et on a un certain nombre de recommandations qui sont d'ailleurs issues de cette COP aussi sur la pollution lumineuse et la pollution nocturne. Donc des infrastructures oui, mais qui doivent être le moins nocives possible, y compris de façon nocturne.
Bon, bah il y a du boulot encore sur ce dossier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc de la situation pour les espèces migratrices. Maud Lelièvre et Philippe Grand-Colas. À bientôt, merci.